Donc, une des occasions où est-ce que Jésus, lors du dernier repas, la chambre haute avec les disciples, donc un des récits où est-ce que Jésus institue ce qu'on appelle le repas du Seigneur ou la scène ou la communion. Je vais même vous dire pourquoi on appelle ça de ces façons-là. Ça met un accent différent sur des choses différentes. Habituellement, quand on a le repas du Seigneur, on arrive, on s'en va dans 1 Corinthiens 11 et on va aller là tantôt. Mais là, pour l'étude, je veux qu'on aille à cette soirée même, qu'on, dans le fond, c'est dans tout le contexte de la Pâque et tout ça. Et Jésus ici, qui est avec ses disciples dans un moment de grande intimité, mais en même temps, savez-vous, il y avait de la peur. Beaucoup d'incertitudes, ils ne savaient pas à quoi s'attendre, tout était nouveau, la tension était palpable, le meurtre était déjà planifié dans le cœur de ceux qui ont livré Jésus. Et donc, c'est à ce moment-là que Jésus leur révèle le plus grave. N'est-ce pas vrai aussi? Moi, dans ma vie, là, bon, j'ai pas souffert ben, vraiment, là, j'ai été béni d'être en santé et tout ça. Mais on peut dire que l'année 2020 a eu son lot de souffrances, déceptions et tout ça, mais j'ai jamais senti Dieu aussi proche, aussi vrai, et il m'a jamais autant révélé les merveilles et les mystères de sa grâce. N'est-ce pas? C'est l'œuvre de Dieu, ça aussi. Hein? Ça donne juste que moi, j'ai le privilège de vous le partager quand je suis en avant, mais tu sais, je pense que c'est ce que Dieu fait dans chacun de nos cœurs aussi, donc merci Seigneur pour ça. Et donc, pour les disciples, c'était ça. D'une façon bien spéciale. Et Jésus, il n'y avait pas juste un repas physique. Jésus leur donnait les perles de son royaume qui sortaient de sa bouche comme ça, les enseignait. Et donc, ça dit là, au verset 14, Luc 22, l'heure étant venue, il se mit à table avec les apôtres, et leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous, avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et en prit une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et la donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Là, il y a peut-être un qui se gratte en arrière de la tête. Il n'y a pas un peu trop de coupe dans ce repas du Seigneur-là? Je vais vous expliquer pourquoi. Okay? C'est un seder qu'on appelle, c'est la vraie Pâque authentique juive, comment ils faisaient ça. En fait, il y avait 4 coupes. Je vais vous expliquer ça dans un instant. Mais juste pour dire, ici, on a ce qu'on appelle le repas du Seigneur. Jésus a dit, hein, faites ceci en mémoire de moi. C'est un appel à se souvenir, un appel à mettre Dieu au centre, non seulement de nos vies personnelles, mais ensemble, de notre adoration, ensemble comme Église. Et Jésus a pris un symbole ancien. La Pâque, c'était pas nouveau. Jésus a dit, j'ai vivement désiré cette Pâque. C'était pas la première fois qu'il célébrait la Pâque, en fait, c'est à tous les années. C'était quelque chose de très commun. Ça avait été institué à l'époque de Moïse, OK? Et donc, il a pris un symbole ancien, une pratique ancienne, et l'a chargé d'une signification tout à fait nouvelle. C'est-à-dire que il a pris ce qui était déjà existant, la Pâque, l'agneau, le sang, l'ange de l'Éternel qui passe au-dessus des maisons qui ont le sang sur les linteaux. Et il a donné une signification qui est, on peut dire, amplifiée. Il a amené ça vraiment à un tout autre niveau. Et c'est ce que j'aimerais qu'on voit la signification de ça avec le titre de mon message, c'est simplement un mémorial très significatif. Et vous savez, on a en gros 3 façons d'appeler le repas du Seigneur. Il y en a qui disent la scène. Puis c'est pas mal synonyme avec le repas du Seigneur. L'idée saine, l'origine du mot, c'est l'idée d'un repas, là. Mais c'est quand on parle de repas du Seigneur saint, souvent on pense à cette dernière nuit. Et ça met l'accent sur son œuvre expiatoire. Il dit, c'est mon corps qui est livré, c'est mon sang qui est versé. Donc ça met l'accent sur l'œuvre expiatoire de Christ. lors de son dernier repas juste avant la croix. Mais aussi un autre, puis peut-être qu'on l'utilise moins dans notre milieu, peut-être c'est moi qui me trompe, mais le mot communion. On a la communion, vous avez déjà entendu ça sûrement. Avoir la communion. Peut-être qu'au Québec, on réagit à ça. Oh, on ne veut pas dire ça, communion, parce que les catholiques disent ça. Mais l'idée de communion, c'est l'accent sur la relation, l'union du croyant avec Jésus-Christ et les uns avec les autres. Okay? C'est cette communion. Donc, les deux parlent de la même chose, mais mettent l'accent sur un aspect différent de la même célébration, rappelez-vous. Le repas du Seigneur, ce n'est pas un enterrement, parce qu'il est vivant. C'est une célébration de la croix et de la résurrection. Okay? Parce qu'il dit, faites ceci en mémoire de moi, on se rappelle la croix, mais aussi, on sait que ça l'a pas fini là. Donc, c'est ça en gros. Et qu'on le regarde d'un angle ou de l'autre, puis les deux sont importants, on doit se souvenir que, l'essentiel, c'est que c'est un mémorial qui est très significatif. Et je veux qu'on s'arrête sur la signification du repas du Seigneur, de la communion, cet après-midi. Lorsqu'on se rappelle de l'œuvre de Christ, sa mort, sa résurrection, on est en train de faire ce que le Seigneur nous ordonne, c'est une des ordonnances. Okay? Il y a le baptême, puis il y a la communion, le repas du Seigneur. Le Seigneur ne veut pas que ça soit juste quelque chose qu'on fait machinalement, par obligation. Non, il y a une grande signification qui est attachée à ça. Même qu'en discutant avec ma fille, moi je ne l'ai pas étudié tant que ça, mais les chrétiens ont beaucoup associé tout le concept du repas du Seigneur à la présence du Seigneur au milieu de nous. Puis après, là, il y en a qui ont dit, ah ben là, ça devient littéralement, bon, la transsubstantiation, c'est allé trop loin. Mais l'idée de la présence du Seigneur au milieu de son peuple, c'est très central, puis ça l'a été tout le temps. Puis ça se peut-tu que ça en a un nom qu'on a peut-être échappé avec l'eau du bain? C'est parti ça aussi. Donc, il y a une signification. Est-ce que le Seigneur dit, faites ceci en mémoire de moi, je suis votre pain, je suis votre vie, la vie est dans le sang. Et donc, Jésus veut nous rappeler qu'il est, lui, le sang de la vie chrétienne, la signification de la vie chrétienne. Et donc, il veut qu'on apprécie ça. Il veut pas juste qu'on le comprenne mentalement, il veut qu'on l'apprécie dans notre cœur, que ça soit précieux, que ça soit un commémoratif qui réchauffe nos cœurs envers lui. Donc, pour aller un peu dans ce sens-là, on va voir trois significations fondamentales de ce commémoratif très significatif. D'abord, il y a la signification historique. Lors du premier repas du Seigneur qu'on voit ici, qui en fait n'est pas vraiment le premier, comme je vous l'ai dit, là. Je veux dire, c'est la première fois qu'il faisait comme ça en instituant, comme je disais, en donnant la nouvelle signification au symbole ancien. Le symbole est ancien, la Pâque, OK? Mais là, c'était le premier dans le sens, la première fois là, qu'il en donnait tout le sens de la croix, tout le sens de son œuvre, OK? C'est dans ce sens-là que c'est le premier. Jésus célébrait quelque chose qui était célébré chaque année depuis des centaines d'années en Israël. Et le contexte de la fête, c'est toute les fêtes de la fête des pains sans levain. OK? Ça a été institué dans Exode 12, vous savez, avec les plaies d'Égypte, qui était un jugement de Dieu. Donc, le contexte historique, c'est le jugement de Dieu qui était imminent. Vous savez, il devait manger ça à la hâte, avec des herbes amères. C'est très significatif, chaque détail qu'il y avait là-dedans. Et les premiers-nés allaient être tués, ceux qui n'étaient pas couverts par le sang. Le mot pour Pâques, quand on regarde, on remonte à la racine, c'est l'idée de passer au-dessus. Même en anglais, souvent, ils vont dire pour le... Ils disent Easter, comme nous, on dit Pâques, mais sinon, le mot juif, la Pâque juive, d'ailleurs, la Pâque chrétienne, qui devrait être une et même célébration, là. Ça a été séparé par Constantin, puis je suis pas vraiment content de lui depuis que j'ai appris ça. Mais bon... C'est un peu trop tard pour être choqué contre lui, là, mais bon. Ils disent en anglais « Passover ». C'est ça, le « Passover », on passe au-dessus. Et donc, c'est ça, tout le contexte historique. Et cette célébration, c'est devenu le symbole de la libération d'Israël, de l'esclavage d'Égypte, de l'esclavage du jugement, l'ange de l'Éternel qui donnait la mort à tous les premiers-nés. Et de là, Jésus est parti pour les amener à cette nouvelle signification que Jésus donne en disant lui est l'agneau de Dieu qui verse son sang. Et vous allez voir comment ça va pas mal plus loin parce que c'était à l'époque, c'était pour Israël, on va en parler un peu plus dans le deuxième point, mais Jésus a amené cette pensée du jugement de Dieu, puis, OK, beaucoup plus loin que simplement la signification historique qu'on voit dans l'Exode. Mais ça, on va regarder ça pour dans un instant. Mais cette signification-là, en gros, c'est la croix, la mort expiatoire, l'agneau de Dieu qui donne sa vie. Je vous donne une illustration qui peut être actuelle, mais qui n'est pas si actuelle, mais vous avez entendu dernièrement, des fois on entend de plus en plus « crime contre l'humanité » ces temps-ci. Puis « procès de Nuremberg », il faut ramener ça parce que les Juifs avaient subi contre eux des tests médicaux puis ça, sans leur consentement. Puis là, fait que pour ça que ça ressort, ben là on peut pas forcément avoir des traitements médicaux sans leur consentement. Fait qu'on parle de Nuremberg de plus en plus, pour ceux qui ne savent pas, peut-être les plus jeunes. Nuremberg, c'est le procès qu'il y a eu après la Deuxième Guerre mondiale. Tous les gens du régime nazi qui avaient abusé de leur pouvoir durant la guerre en faisant justement des tests sur des humains, puis tout ça, comme si c'était des rats de laboratoire. Puis tout le régime de terreur qu'il y avait, donc c'est un grand procès. C'était pour juger des atrocités qu'il y avait eu sous le régime nazi. Donc les gens ont dû rendre des comptes, hein? Puis ça c'était devant les hommes, puis en plus ils ont eu à faire face à Dieu un jour. Mais ça ressort à nouveau parce que c'est la même mentalité qui refait surface. La même mentalité, c'est ça qui peut être inquiétant. Mais les faits, les événements de ce procès sont historiques, sont passés, ça fait longtemps. OK? Mais ils ont encore de la signification aujourd'hui, puis ils garantissent pour nous des libertés qu'on devrait avoir en disant « ça a été montré que ça, c'est pas correct, et donc encore de nos jours, ça ne l'est pas, n'est-ce pas? » Et donc, l'histoire, c'est pas juste la théorie, c'est important, ces choses ont des répercussions pour maintenant. Ben, de la même manière, le Dieu qui a agi dans l'histoire d'Israël pour les libérer de l'esclavage d'Égypte est le même Dieu qui a opéré la délivrance par la croix il y a 2000 ans, puis c'est lui encore qui libère du péché ceux qui se confient en lui. Donc, c'est plus que juste un événement historique qui est arrivé il y a 2000 ans, c'est un événement qui a un impact actuel et éternel. Et c'est ça la signification historique du repas du Seigneur, c'est se rappeler de quelque chose qui a encore des répercussions très actuelles, très réelles, un événement qui est tellement grand qu'il continue à avoir de l'impact encore même après tant d'années. Il y a un impact très important, pas secondaire. Et c'est ça le thème central lorsqu'on dit qu'on se rappelle de l'œuvre de Dieu, c'est se rappeler, se remettre à la mémoire la réalité de tout ça. L'efficacité, c'est l'œuvre de la croix est encore tout aussi vivante et effective, je ne suis pas sûr que ça se dit en français. Efficace, merci, que v'là 2000 ans. Ça, c'est la signification historique. Maintenant, si on regarde la signification rédemptrice, parce qu'on sait que l'histoire de la Bible, c'est l'histoire de la rédemption. C'est la merveilleuse histoire de Dieu qui a intervenu là où l'homme a péché, là où il y a eu la séparation dès le moment du péché, hein? On sait que notre Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a offert des animaux. Et là, il a fait la promesse. On appelle ça le proto-évangile. Ceux qui connaissent l'expression, c'est-à-dire l'évangile, là, dans sa plus simple essence. Et donc, ça, c'est le début d'une grande histoire de la rédemption. Et tout ça s'est accompli en Jésus-Christ. On a ça d'une certaine façon, si vous voulez, lorsque Jean-Baptiste a vu Jésus. C'est quoi qu'il a dit? Voici l'agneau de Dieu qui ôte, qui enlève le péché du monde. Et donc, c'est ça la raison d'être même de la venue de Jésus, c'était de venir accomplir cette rédemption, cette délivrance. L'agneau pascal était juste une préfiguration de ça. Jésus est le réel agneau. Donc, si on retourne un peu à notre histoire d'Exode 12, l'agneau qui était sacrifié, c'était pour la délivrance temporaire et physique d'une famille. Hein, je veux dire, c'était pour cette époque-là. S'il avait mis le sang, l'ange y passait, puis là, cette famille-là, ils gardaient leur vie. OK? La croix nous présente l'agneau de Dieu qui s'est sacrifié pour délivrer le monde entier de la pénalité et du pouvoir de tous leurs péchés. Wow! C'est pas mal plus grand, là. OK? Là, je parle pas d'universalisme, mais je parle que c'est, je veux dire, la portée de l'œuvre, c'est grand comme ça. Dans Exode 12, l'agneau est un substitut pour le premier-né des enfants d'Israël. Mais Jésus-Christ, c'est notre substitut par la croix pour tous ceux qui s'approchent de lui par la foi. La Bible nous dit que sans l'effusion de sang, l'effusion du sang de l'agneau, les enfants d'Israël auraient subi le jugement de Dieu, la mort de l'ange de l'Éternel. De même, sans l'effusion du sang de Jésus, notre substitut, nous n'aurions aucun espoir de salut. C'est ça la signification rédemptrice de l'œuvre de Dieu. C'est la délivrance qui est dans ce sacrifice, dans ce sang. J'ai une histoire kenyane pour vous autres. Vous connaissez le Kenya? Moi, je ne connais pas bien, bien. Vous, vous connaissez. Il y a des gens dans cette salle qui le connaissent sûrement plus que moi. Mais j'ai appris, par exemple, que le président du Kenya, si c'est soit Kenya, soit Nigeria, il a osé parler un peu trop comment il pensait, puis il n'est plus là pour en parler. Vous avez entendu parler de ça, hein? Je suis pas trop au courant, mais en tout cas. Tanzanie, c'est ça, Tanzanie. Ah non, c'est pas drôle, en tout cas. Bon, mais il y a une petite fille kenyenne de 8 ans qui était tombée dans un puits. Et en tombant, ben, elle s'est cassée la jambe, donc elle n'était pas capable de sortir. Donc, une jeune femme plus vieille que la petite fille est allée pour la rejoindre, pour essayer de la sortir de là. Mais malheureusement, alors qu'elle tentait de la délivrer de là, donc il était les deux là, puis celle qui s'était pas cassée la jambe, la plus vieille, voulait la délivrer, mais là, un mamba noir. Vous savez c'est quoi? C'est le Satan, le plus venimeux d'Afrique, a mordu la plus vieille, puis ensuite a mordu la plus jeune. Et là, il y a des secours qui sont arrivés, ont été transportés à l'hôpital. Malheureusement, la plus vieille est morte peu de temps après. Mais pas la plus jeune. Pourquoi? Parce que le venin avait tout été dans la plus vieille lorsque le serpent avait mordu. La plus jeune avait une blessure de morceau, mais pas de venin. Et vous savez, c'est ça que Jésus a fait aussi. C'est lui qui a pris le poison du péché. C'est lui qui a tout pris la malédiction du péché pour nous, pour qu'on puisse vivre. Lui a pris le châtiment qui nous donne la paix. Et c'est ça la puissance de la rédemption. C'est ça qu'on se rappelle. On se rappelle que le poison du péché, la séparation de la mort, c'est plus pour nous parce que Christ l'a pris pour nous. Lui a pris la malédiction à notre place. Il est devenu malédiction pour nous. Wow! Ça, c'est quelque chose. Ça, c'est la culmination de Jéhovah Jiré, l'Éternel pourvoira. Ça avait été préfiguré avec Abraham, ça s'est accompli en Jésus-Christ. Ça aussi, ça fait partie de l'histoire de la rédemption. Cette postérité qui était promise à Abraham, c'était Christ. Maintenant, il y a une dernière signification, de la signification personnelle. Historique, rédemptrice, personnelle. J'ai dit que j'allais revenir avec l'histoire des coupes. Je relis au verset 17 ici dans Luc. Et ayant pris une coupe et rendit grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. OK? Donc ici, Luc, c'est le seul à mentionner ici une autre coupe. D'habitude, c'est tout le temps, tous les récits qu'on a du repas du Seigneur, c'est tout le temps la dernière. OK? Mais le repas de Pâques que les Juifs appellent le Seder, S-E-D-E-R, avait quatre coupes. Et c'est la première qui est une coupe d'action de grâce. Donc ça dit, il a distribué la coupe puis il a rendu grâce. Donc c'est une coupe qui était. Vous savez, c'est un repas cérémoniel, c'est un repas commémoratif. Et donc, c'était la coupe d'action de grâce. Et Luc nous souligne ça. Ça nous rappelle que toute l'approche, l'atmosphère du repas du Seigneur, c'est une atmosphère de reconnaissance d'action de grâce. C'est une célébration. Vous rappelez-vous, on a vu ça, il y a un repas ou deux du Seigneur dans l'étude. C'est ça. C'est se rappeler quelque chose de merveilleux. C'est se rappeler une délivrance. C'est se rappeler ce qui nous donne la liberté, la vie. Et donc, c'était déjà même ça aussi souligné lors de la Pâque que Jésus a célébrée cette soirée-là avec les apôtres. Et l'idée ici avec la signification personnelle du repas du Seigneur, c'est de reconnaître personnellement, de célébrer personnellement cette délivrance, mais aussi c'est collectivement. C'est-à-dire, on ne prend pas le repas du Seigneur chez nous ou en faisant notre dévotion le matin. C'est quelque chose de collectif. On est le corps de Christ. On a une représentation locale du corps de Christ. Et donc, on se rappelle ensemble. C'est quelque chose... Il dit, faites ceci pluriel. C'est quelque chose qu'on célèbre ensemble. Il y a une unité spirituelle, justement, qu'on vit à travers ça. Parce que, comme on a vu dans les dernières semaines, on ramène Christ au centre. Voyez-vous comment tout ça se tient? C'est Dieu qui veut s'assurer qu'il reste le centre de notre attention, de notre focus, pendant toutes nos vies, nos adorations, nos... c'est tellement important. À ce sujet-là, je vous lis 1 Corinthiens 10, 17, qui dit « Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. » Christ est notre pain qui est venu du ciel. C'est ça qu'on... Hey, Dieu a pourvu. Il a envoyé le pain venu du ciel. Puis Jésus a versé son sang, le sang de l'Alliance, dans lequel on est lavé, par lequel on est racheté. Donc c'est ça qu'on se rappelle ensemble lorsqu'on a le repas du Seigneur. Et c'est ça ici que Jésus communique lorsqu'il dit... Il prend l'expression autant au verset 19 qu'au verset 20. Il dit, après avoir rendu grâce, il dit, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. » Ensuite, il dit à la fin du verset 20, « Ceci est mon sang qui est répandu pour vous. » Je vous donne, vous bénéficiez de ce que je vous donne. Rappelez-vous de ce que j'ai fait. Rappelez-vous de mon don. Rappelez-vous comment Dieu a pourvu. Et Dieu nous rappelle ça parce que c'est ce qui nous garde en communion ensemble, les gens avec les autres, de se rappeler. C'est ça qu'on a en commun. Et les chrétiens, c'est ça qui est unique. Nous, ici, on le vit un petit peu. On le vit de façon ethnique. Il y a des gens de différentes ethnicités, puis tout ça. On le vit de façon générationnelle. Il y a des jeunes, il y a des moins jeunes, et tout ça. Puis à l'époque de l'Église aussi, c'était comme ça. Il y avait les Juifs et les païens ensemble, tellement différents. Mais avec Christ en commun. Et Dieu a fait la beauté de l'Église, c'est de prendre des gens tellement différents qui, normalement, n'auraient vraiment pas été les uns avec les autres, mais là, qui sont unis. Pourquoi? À cause qu'ils ont le même but, ils ont le même Seigneur. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Le 1-1-1-1 là, dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens quoi donc? Un seul baptême. Non, c'est Éphésiens chapitre 4, excusez. Donc, on est unis autour d'un même et seul Seigneur qui vit, et sa vie, c'est ce que personnellement et collectivement nous unit, et c'est ce qu'on célèbre. On célèbre celui qui s'est donné afin qu'on puisse vivre. On célèbre la mort de la croix avec la vie maintenant qu'on a à cause de cette mort. Et c'est pour ça que c'est une grande célébration personnelle, mais aussi ecclésiastique en tant qu'Église. Donc, on s'est rassemblés après-midi pour adorer en se souvenant de Jésus-Christ. Comme Paul a dit très simplement à Timothée, « Souviens-toi de Jésus-Christ qui est ressuscité, descendant de David, conformément à l'Évangile que j'annonce. » Ça, là, des fois, je fais du copier-coller, puis je n'ai pas pogné la bonne version. C'était pas la Louis II, je ne sais pas laquelle je vous ai lu, là, mais... En tout cas, c'est une autre version que celle-là qu'on est habitué. Mais ça, ça ne sonne pas pareil, hein? C'est pas grave. Dave, mon garde, t'es pas sûr, hein?
C'est pas celle du sommeur.
Ouais, en tout cas. Souviens-toi de Jésus-Christ. Donc, on se ressent autant individuellement que collectivement sur l'objet de notre adoration. Il y a quelque chose que j'ai lu dernièrement. Tu sais, Dieu nous enseigne tellement d'affaires avec sa création et tout ça. Puis, vous savez, la lumière, c'est invisible. Qu'est-ce qui fait qu'on voit la lumière? Tu sais, des fois, on dit, « Ah, il y a un rayon de soleil, demain, je suis capable de voir la lumière. » Non, on ne voit pas la lumière. On voit la poussière, les choses, des particules qui sont en suspension dans l'air, puis ils reflètent la lumière. On voit la lumière parce qu'elle reflète. Et Dieu est lumière. Il n'y a aucune ténèbre en lui. Et comment qu'on voit cette lumière? La Bible nous dit que Dieu a fait resplendir la gloire de l'Évangile sur la face de Christ. Christ, c'est lui qui nous montre la lumière de Dieu. Christ est l'objet sur lequel Dieu a fait toute luire sa lumière pour nous montrer qui il est. En lui, on a toute la révélation de qui Dieu est. Et donc, on se ressemble. C'est comme si on remet la lumière, là où elle doit être, dans nos cœurs, dans nos vies, en tant qu'Église, sur Jésus-Christ. Dieu est lumière, et c'est en Jésus-Christ qu'il nous révèle. Il est l'objet de la révélation de Dieu. Et donc, c'est une joie qu'on peut prendre ensemble part à ce repas du Seigneur, dans la joie, la paix, la liberté. C'est une célébration. Et je remercie Seigneur que, avec... un temps comme celui-ci, ça prend une différente signification parce que c'est des moments difficiles qu'ils ont vécu puis tout ça. Puis savez-vous quoi? Même une fois que Jésus était monté au ciel puis tout ça, il avait le repas du Seigneur. C'était encore là. C'était des temps. Il y avait de l'opposition puis tout ça, mais il était uni puis tout ça. Puis dans un moment comme on est en ce moment, on peut dire que c'est une époque qui n'est pas évidente. Oui, mais quoi, on a ce qui nous unit. On a celui qui nous unit. C'est tellement précieux. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ce temps. Juste pour s'arrêter un peu, avec ce que ta parole nous dit, sur ce temps tellement précieux qu'on prend maintenant. Et les éléments qu'on s'apprête à prendre. Seigneur, on veut te louer pour Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde, qui donne la vie, qui est la vie, qui est notre vie, qui est la vie de cette Église, qui est le miracle de cette Église. Loué sois-tu, Seigneur. C'est ta grâce. Ah, Seigneur, on te célèbre et on te remercie pour toutes ces choses. Au nom de Jésus. Amen.